Alors, on a déjà parlé du printemps. On a parlé du printemps. Est-ce qu'on a parlé du printemps?
Non.
Pas du printemps.
Non.
On va parler du printemps. Ça va prendre un peu de temps, mais on va parler du printemps, mais on ne va pas commencer par le printemps. Ce serait trop facile. Voilà. Si on vous demande ce que vous allez faire là dans une semaine, vous allez dire que vous allez vous asseoir au CDR et que vous allez raconter la sortie d'Égypte, c'est ça? Parler de Yetziat Mitzrayim. Et puis vous direz, ben, je suis sûr de ce que je fais, parce que dans la Haggadah, c'est même marqué que les Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Choua, Rabbi Lézer, Rabbi Tarfon, j'étais assis, Rabbi Brak, ils ont parlé de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit. Yetziat Mitzrayim. Alors, en général, quand on veut regarder, commence à regarder les choses d'un peu plus près, on regarde dans le Rambam comment le Rambam s'est exprimé. Et si on regarde dans le Lachon du Rambam, le texte du Rambam, il dit la chose suivante. Il dit, est-ce qu'il dit ça? Il dit voilà. C'est mitzvah assez, il y a une mitzvah positive, min la Torah, c'est mitzvah midoraita, min la Torah, comme on dit, le saper de raconter, et puis on s'attendrait à ce que le Rambam continue, de le saper d'Yetziat Mitzrayim. Or, c'est pas ça que le Rambam dit. Le Rambam dit, la mitzvah assez, c'est le saper de raconter, benissim, beniflaot, les miracles et les choses extraordinaires, qui ont été faits pour nos ancêtres en Égypte, Beleil Chamisha Asar Benissan, la nuit du 15 Nissan. Donc on voit que pour le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de saper Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas à raconter la sortie d'Égypte. Il y a à raconter les nissim et les flaot qui ont été faits pour nos ancêtres la nuit du 15 Nissan en Égypte. C'est, semble-t-il, une autre mitzvah. Il parle d'autre chose, de Rambam. Mais, bien sûr, même si nous sommes d'accord que la sortie d'Égypte était un miracle. D'accord, c'est bien miraculeux, la sortie d'Égypte. Mais, en fait, quand ils étaient en Égypte et quand ils sont sortis, ils n'ont pas tellement vu à ce moment-là la dimension visible du miracle. Donc, quand on nous dit de raconter des mystères et flaotes, on veut raconter des choses extraordinaires. Mais là, ils sont sortis d'Égypte, en plus, comme on l'a déjà souvent remarqué, quand il s'agit de la sortie d'Égypte elle-même, on n'en dit rien du tout, n'est-ce pas? Donc, enfin, presque rien, puisque tout ce qu'on en dit, c'est uniquement que la sortie d'Égypte, elle a eu lieu l'Oali des Malach, l'Oali des Shliach, l'Oali des Saraf. Ça n'était pas un ange qui a passé, c'est pas un changement de dynastie, c'est pas un tsunami, c'est pas une révolution. C'est pas la décolonisation, c'est pas des coups d'État, c'est pas un ennemi de l'extérieur qui a envahi, etc. C'est rien de tout ça, rien de ce à quoi tu pourrais penser, c'est rien de tout ça. Si c'est rien de tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Mais non, c'est Hachem. C'est Hachem qui l'a fait. Mais, à la limite, au lieu de dire c'est Hachem qui l'a fait, on pourrait tout aussi bien du point de vue de ce qu'on en comprend, dire, ben, tu comprendras jamais comment on est sorti d'Égypte. Alors c'est vrai, on comprendra pas. Mais on peut pas comprendre. Il s'est passé quelque chose, on sait pas. Enfin, personne n'a la moindre idée du comment un peuple entier peut sortir, en quelques heures d'Égypte avec tout le, tout ce qu'ils ont emporté avec eux, etc. Hommes, femmes, enfants, encore 3 millions de personnes probablement, même si ces chiffres sont sujets à caution et qu'il ne faut peut-être pas les entendre de cette manière-là. Je vous rappelle que pour le Maharal, l'important dans les fameux 600 000 qui sont sortis, c'est le chiffre 6. C'est pas les centaines de milliers. Le 6 ici joue un rôle fondamental, comme on l'a déjà dit souvent, parce que 6 c'est une façon de décrire l'espace. Aujourd'hui, nous on dit on travaille en 3 dimensions, mais nous on travaille en 3 dimensions parce que comme on a des nombres négatifs, alors on a besoin seulement de 3 axes, si vous voulez. Mais en réalité, si on veut décrire la situation, il faut, sur le plan, il en faut 4. Il ne faut pas seulement 2. D'accord? Il faut un truc qui va dans la direction du nord, vers l'est, vers le sud, vers l'ouest, et après vers le haut et vers le bas. Ça fait 6 directions. Donc c'est ça, c'est dire que le clan Israël représente un tout dans le monde, comme s'il était un monde à soi tout seul. D'accord? Il a 3 dimensions. Enfin, pour nous, donc. 6 dans le langage de la Torah. Donc, on n'en sait pratiquement rien de cette sortie d'Égypte. Et puis, en tout cas, ils n'ont pas vécu comme un miracle. À la limite, la mort des premiers-nés, c'était peut-être un plus grand miracle. Et chacune des Makot, c'était des miracles encore plus grands. Alors, on est sorti. Comme on ne sait pas comment on est sorti, on n'a pas tellement à raconter ce miracle, même si on le considère comme un miracle. Celui-là, on ne peut pas le raconter. Et alors, bon, c'est un peu choquant, parce que c'est pas du tout ce qu'on attend. Et voilà, si on lit la phrase suivante dans le Rambam, alors le Rambam, c'est un texte qui nous décrit le comment des choses. Alors le Rambam, dans la deuxième halakha, il dit que comment est-ce qu'on raconte, comme on sait on raconte, a priori c'est le récit d'une génération à la nouvelle génération, là, du père à ses enfants, d'un père à ses enfants, c'est ça le récit en question qui est à faire le soir du Seder. Bien sûr qu'après il va y avoir une situation où s'il n'y a pas d'enfants à la table, on le racontera à des adultes, et puis si on n'est que deux, on le racontera, moi je vais essayer de raconter quelque chose qu'elle ne connaît pas à Rachel sur la sortie d'Égypte, je ne sais pas, encore pas l'idée, est-ce que je pourrais bien lui raconter qu'elle ne connaisse pas déjà. Ça fait quand même quelques années qu'on pratique le céder ensemble, donc elle a déjà à peu près l'impression que j'ai raconté tout ce que je pouvais raconter, il y a quelque chose que j'ai dit de cette année, elle les a aussi entendus déjà, alors je ne sais pas. Mais enfin, de toute manière, on va le faire à deux. Rachel travaille très fort sur ma Mishnah, elle connaît bientôt, ça va aller. Rachel, ce qu'elle fait, c'est elle révise ma Mishnah et puis elle cuit pour deux dans des marmites pour 20. Bon, c'est pas tout à fait la chose la plus facile. Alors le Rambam il continue et il dit le fils d'Ato shel ben aviv melamdo. Le père il enseigne à son enfant la sortie, il le récit, mais il fait le récit. Le Rambam il appelle ça melamdo, c'est-à-dire il lui enseigne. Il s'agit d'un enseignement. Ce sipour est un enseignement, dit Rambam. Alors l'enseignement du père à son fils, c'est un enseignement qui va tenir compte, évidemment, de la maturité, de l'âge de l'enfant. Et alors, qu'est-ce que ça? Alors, Rambam dit, comment? Voilà, je vais te décrire ma situation. Imaya, si l'enfant était katam, et l'enfant était un mineur, un enfant, il a 11 ans, ou otipesh, ou c'est un enfant pas très doué, pas très développé, pas très mûr, en merlo, voilà ce que le père dit à son fils. Écoute, attachez vos ceintures et écoutez. Il dit comme ça, béni mon fils, il lui parle comme ça, mon fils, ouais. Abraham n'était pas tunisien, mais mon fils, il lui dit, kulano, tous, aino avadim. Nous étions tous esclave. Évidemment, dans la tête de l'enfant, le mot esclave, ça fait pas grand-chose. Alors, le Rambam, semble-t-il, il avait des esclaves, donc il a fait venir un esclave et une servante, et il dit à son fils, « Comment chifrazou, or comment révezé ?» On était tous esclaves, comme cet esclave. Cette femme esclave, comme cet homme esclave. Voilà, là, il a dit quelque chose de très concret. Alors, jusque-là, ce qu'il lui dit, voilà, on était comme eux. Jusque-là, un enfant, il peut probablement suivre. Parce qu'il se représente, mais il peut suivre. Mais le Rambam continue, parce que le récit est important. Alors il dit, c'était comme ça, en Égypte, on était comme eux. Ou Balaïla Hazé, cette nuit-là, la nuit qui correspond à ce qu'on est en train de faire, cette nuit-là du 15, Pada Otanu Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous a racheté, le pidyon, le rachat d'un esclave, Bayotsiyenu Lechevut. Et il nous a fait sortir, nous a fait accéder à la liberté. Alors vous voyez l'enfant, 11 ans, d'accord, on lui parle de pidyon, du rachat d'un esclave, puis on lui parle de la liberté, d'accord, on a accédé à la liberté. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est censé comprendre l'enfant? Qu'est-ce qu'on lui raconte? Je sais bien que tous les enfants juifs sont des génies, mais quand même, c'est... Vimaya ben Gadol, et si le fils était un Gadol, c'est un adulte, un peu déjà, enfin en tout cas plus que la bar mitzvah, Vechacham, et un sage, et il comprenait les choses, alors Modio, il lui fait savoir. Là, c'est intéressant, si on voulait, je ne vais pas entrer là-dedans, mais remarquez que au Katan, le Rambam dit Melamdo, Lashon Limud, il lui enseigne, et quand l'enfant est plus âgé, modio, c'est la lydia, ça veut dire, il donne l'information, quoi. Il lui fait connaître les choses. C'est très étonnant. Comme s'il n'y avait plus de limoud à cet âge-là. Il lui enseigne plus. Modio. Mao modiolo. Qu'est-ce qu'il lui dit? Modiolo. C'est, mache ira lanu be mitzraim. Ce qui nous est arrivé, en Égypte. Voilà, déjà il dit, ça nous est arrivé à nous. Bon, il dit pas ce qui est arrivé à nos ancêtres. Au Katan, il lui a dit, c'est, quand il a défini la chose, il a dit, ma, niflaotche nasu, la voté nous de Mitzrayim. Et ici, quand il parle à son enfant, qui est déjà majeur, il lui dit, ma sheira, la nous de Mitzrayim. Nissim, Venis, donc, le rapport, ce qui nous est arrivé en Égypte, Venissim, Shenasu, Lanu, et les miracles qu'ils ont été faits pour nous, Aliede Moshe Rabbeinu, par l'entremise de Moshe Rabbeinu. Et il continue, il dit, Akol, Fida, Toshelben, tout ça c'est en fonction de la maturité, de la compréhension de l'enfant. Vous voyez, c'est tous les mots ici sont des mots sur lesquels il y aurait beaucoup à dire. C'est intéressant que là, au Gadol, d'abord il introduit la notion de Moshe Rabbeinu. Or, tout le monde sait que dans la Haggadah, on ne mentionne pas Moshe Rabbeinu. Dans la Haggadah, ça ne parle pas du tout. Et donc, nous avons le Noussar, la version de la Haggadah du Rambam. Et dans sa Haggadah, lui, il n'y a pas un mot de Moshe Rabbeinu. Les Ashkenazim, ils ont, comme ils parlent de la sortie, ils parlent aussi de Kriyat Yamsouf, et qu'on cite le pasouk Vayamin ou Bashem ou Moshe Abdo, alors on cite le nom de Moshe là, parce qu'on pouvait pas couper le pasouk en plein milieu pour ne pas dire le nom de Moshe. Mais dans tout la description de la sortie d'Égypte, on mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu. Donc, le Rambam qui dit que quand on a un enfant qui est Gadol, Raham, on lui enseigne que les Nissim, on lui dit pas les Nissim ont été faits par Hachem d'ailleurs. D'accord? On lui dit les Nissim ont été faits, non pas par Moshe, mais à l'idée Moshe Rabbe. C'est très très étonnant. Alors voilà. Si maintenant on continue. Si on regarde les Arba Banim, les quatre fils dont on parle dans la Haggadah. Alors il y en a un qui s'appelle Tam. Koyal, Paham, Racha, un Tam. Le Tam, c'est, on traduit par simple, bon, c'est quelqu'un qui, il est pas idiot du tout, mais bon, il n'a pas encore la capacité de détailler les choses. Alors lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Mazot. C'est quoi ça? Il voit bien qu'il y a des choses extraordinaires qui se font là, ce soir-là, qu'on n'a pas l'habitude extraordinaire au sens de ça sort de l'ordinaire, mais il ne sait pas dire pourquoi vous trempez, pourquoi on fait ceci, pourquoi on se lève, pourquoi on mange à couder, etc. Ça, il ne sait pas pourquoi on a quatre coupes, tout ça. Il n'arrive pas à détailler les choses, mais il voit bien, il dit « Mazot ». C'est quoi ça, ce que vous fabriquez? Mais après lui, il vient de chez Noir Gerlichol, celui qui ne sait pas poser de questions. Et là, on dit « Vaptarlo ». C'est, il faut lui ouvrir la porte. Il faut ouvrir cet enfant jusqu'à ce qu'il arrive à poser les questions. Et pour ce faire, pour qu'il pose des questions, on se donne beaucoup de travail à faire le soir du CDR, toutes sortes de choses qui sortent justement de l'ordinaire pour exciter cet enfant. Il est là, il voit rien, il est là. Et il ne s'est même pas posé une question, donc quand il voit, ça ne le frappe pas du tout. Il n'est pas interrogé, il n'est pas interpellé par ce qu'il voit. Il n'est pas capable de questionner. Et donc, on va susciter des questions. Et on travaille beaucoup pour susciter une question. On va le faire grandir d'un cran. C'est-à-dire, pour qu'il en arrive à dire Mazot, on fait tout un cinéma le soir du CNR. Pour que l'enfant, qui ne sait pas poser de questions, il en arrive à dire Mazot. C'est ce qu'on veut. Tout le travail pour ça. Pour que les enfants posent des questions. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, quand le Rambam dit, revenons sur notre étonnement en fait, quand le Rambam parle du Katan, je vous rappelle ce qu'il a, comment il dit les choses, il dit, on dit au Katan, on était tous esclaves, comme c'est les deux esclaves là qu'il a appelés, là qui sont venus de la cuisine ou je sais pas où ils étaient, il les a fait venir à la table et il a montré à son fils qu'on était comme eux en Égypte. Ok, bon, puis après il lui dit qu'Hachem Ada Otanu, il nous a racheté. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas. Sinon, on sait vraiment ce que ça veut dire, racheter un esclave. Quand je m'en cours, et puis, il nous a fait sortir à la liberté. C'est ce que c'est la liberté à un enfant, un Katan? C'est comme ça qu'on parle à un enfant. Quand il est plus âgé, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas un mot de la sortie d'Égypte. Le mot sortie d'Égypte, il n'est pas prononcé du tout. Donc, la première question. Ce qu'on raconte à un Katan, a priori, c'est pas quelque chose qu'on raconte à un Katan. Et quand ce qu'on raconte à un Gadol, on lui raconte que les Nissim, ils ont été faits par Moshe Rabbeinu. Chaque enfant sait, pratiquement, c'est une des premières choses qu'on apprend au Talmud Torah, on apprend aux enfants que le nom de Moshe est pas dans la Haggadah. Alors le Rambam, il en fait le point fondamental, c'est ça qu'on parle au Gadol. La différence donc, entre ce que peut comprendre un katan et ce que peut comprendre un gadol. C'est au katan, on lui raconte qu'on est sorti d'Égypte. On a accédé à la liberté. Et un gadol, on lui raconte tout ce qui a eu lieu en Égypte, les disciples qui ont été faits par Moshe Rabbeinu. Donc c'est clair et net, pour le Rambam, il ne s'agit pas du tout de raconter la sortie d'Égypte. Mais comment on se débrouille, quoi, là-dedans? Hein? Tout le monde sait que la mitzvah, c'est raconter la sortie d'Égypte, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'ils ont fait pendant toute la nuit, tous les Tanaïm, là. C'était Rahim Soubim Bibne Brak, chez Rabbi Akiva. Tout le monde était là, ils ont raconté la sortie d'Égypte pendant toute la nuit. De toute façon, on a un problème pour savoir qu'est-ce que les Tanaïm se sont racontés de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit. On est obligé, pour essayer de comprendre un peu quelque chose, sortir d'Égypte. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai déjà dit plusieurs fois que quand on a dit aux Bnei Israël qu'ils allaient sortir d'Égypte, même ceux qui en étaient d'accord de sortir, mais ça correspondait à rien du tout. Ils ne savaient pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire de sortir d'Égypte. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. D'accord? Quand vous sortez d'Égypte, vous êtes dans le désert. Donc, a priori, si vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas de chance de survivre. Les Israélites, c'était pas une tribu qui a l'habitude de vivre dans le désert, hein, quelques centaines de personnes, ou même milliers de personnes. C'est de 600 000 hommes entre 20 et etc., c'est-à-dire à peu près 1 million d'hommes, femmes, enfants, et des biens qu'ils avaient sur des ânes, etc. Comment ils allaient survivre? Ça veut dire quoi de sortir d'Égypte? A priori, le sens premier de sortir d'Égypte, ce serait comme si on dit, voilà, on va sortir de France. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la frontière française et on va faire un pas dans une des directions qui tournait le dos à la France et on va entrer en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Bon, c'est ça que ça veut dire? C'est ça sortir d'Égypte? Sorti d'Égypte et on est sorti et on est allé dans un endroit qui n'a pas de nom mais qui s'appelle Midbar. Bon, le navire Meya, il dit au nom d'Hachem, je me souviens de ce que toi, le clan d'Israël, dans ta jeunesse, tu m'as suivi, l'Erter Araïba Midbar, tu m'as suivi dans le désert. On est entré dans le désert, ça veut dire quoi? Sortir d'Égypte, ça veut dire entrer dans le désert. A priori, sortir d'Égypte, il faut l'entendre à un autre niveau. On n'est pas sorti d'un territoire pour entrer dans un autre territoire. Sortir d'Égypte, c'est sortir d'une certaine condition et entrer dans une autre condition. On était dans une certaine réalité. On est entré dans une autre réalité. On peut dire, la réalité qui était la nôtre en Égypte, c'était la condition d'esclave dans un pays idolâtre, une très grande civilisation, une maîtresse, modèle, etc., pour d'autres civilisations ultérieures aussi. On était dans cette situation-là. On y était depuis longtemps. D'accord? On était au moins 210 ans en esclavage, mais pendant un peu plus, donc même, on c'était plus de 200 ans. Donc on était égyptiens, si vous voulez. On était des égyptiens qui avaient d'autres valeurs que les égyptiens. Bon, le problème, c'est que ces autres valeurs-là, on les avait beaucoup perdues de vue, puisque comme dit Rambam, à part la tribu de Lévi, qui elle n'a jamais pratiqué l'idolâtrie, les Israélites étaient devenus aussi idolâtres. Donc si vous voulez, pour les distinguer des Égyptiens, il n'y avait pas grand-chose pour les distinguer des Égyptiens. À la mort de Yosef, les Israélites ont cessé de faire la Mila. Il y a un village qui dit que bon, il ne voulait plus faire la Mila parce qu'il voulait justement s'assimiler. Il ne voulait pas être reconnaissable immédiatement par les Égyptiens. Ce Midrash, de toute manière, il est un petit peu difficile parce qu'on n'est pas chez les Grecs. Ils n'étaient pas en train de courir nus dans le stade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas faire la Mila pour qu'on les reconnaisse pas? On n'est pas tout nus. Quand on croisait quelqu'un, on ne voyait pas s'il avait une Mila ou pas. Bon, alors, il est resté une chose qui est très importante, c'est quand même ce Midrash qui dit que c'est vrai que les Bnei Israël, comme dit Rambam, pratiquaient la pratique, ils n'avaient plus. Il n'y a plus une grande pratique, hein, mais il n'y a plus de pratique, disons. Ils n'étaient pas très pieux. Mais, on nous dit néanmoins qu'ils avaient gardé certaines choses. Ils ont gardé leur nom. Ils n'ont pas pris des noms égyptiens. Ils ne se sont pas appelés Pierre, Paul ou Jacques. D'accord. Ils ont continué de s'appeler Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ensuite, ils ont parlé leur langue. Ils n'ont pas, entre eux, ils ne parlaient sûrement pas égyptien. Ils devaient sûrement connaître l'égyptien parce qu'ils avaient affrayé avec des... Et puis ils recevaient probablement même des ordres, si ça se trouve, en égyptien quand ils étaient esclaves. Mais bon, eux, ils parlaient, ils ont gardé leur langue, et ils ont gardé leurs vêtements, la façon de s'habiller. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui distingue. L'habit fait peut-être pas de moine, mais en tout cas, il oblige, il permet la distinction. Si quelqu'un ne s'habille pas comme tout le monde, alors voilà, il va très bien. C'est vrai, comme si vous vous promenez en été, et que vous voyez une femme qui se balade avec des collants, des longs, etc., complètement couverte. Votre choix, c'est de regarder est-ce que c'est une arabe ou est-ce que c'est une juive. Et après, bon, avec un coup d'œil un peu plus appuyé, vous verrez que, bon, elle a pas de juive. C'est pas, donc, ça doit être une juive. D'accord? On la voit tout de suite. Donc, ils ont gardé ça. Cette année, j'ai vu que le Mesher Chokhma, il fait la remarque, effectivement, en Égypte, si vous voulez, on peut dire, il n'y avait pas de piété, mais il y avait ces marques extérieures de non-assimilation. Malgré le fait que, ils ont fait ce qu'il fallait, il y a un autre midrash, on ne peut pas poser les questions en général d'un midrash sur l'autre, mais il y avait quand même l'autre midrash qui dit que, c'est le Beit HaLevi qui en parle longuement, dit que bon, la raison pour laquelle ils faisaient plus la Mila, c'est pour qu'on ne voit pas tout de suite que c'était les Juifs. Ils ont voulu effacer la différence. Il n'y avait pas tellement d'autres différences, que ce soit. Il n'y avait pas d'autres mitzvot. Il n'y avait pas de mitzvot qui s'imposaient à eux. Peut-être qu'il y avait une tradition de ne pas manger guide à lâcher parce qu'ils étaient des descendants de Jacob. D'accord, mais autrement, il n'y avait pas. Si c'était pas l'héritage d'Abraham Avinu, il n'y avait pas grand chose qui les distinguait de la Mila, et s'ils ont aboli la Mila, il n'y a plus de distinction. Alors le Mesher Chokhma, il dit qu'en Babel, dans l'exil de Babel, le premier exil après l'exil de Mitzrayim, c'est-à-dire l'exil après la destruction du premier Beit HaMikdash, en 70 ans, qu'est-ce qu'on voit comme résultat? Le résultat, c'est que, justement, les gens Les hommes ont épousé des femmes non juives. Ils ont parlé le langage local. Et ils se sont habillés comme les goïms. Donc, mais par contre, ils étaient pieux. Par contre, là, du coup, ils avaient des mitzvot. Donc, ils pratiquaient les mitzvot. Donc, le Mesher Chokma, il a dit qu'il y a donc deux situations critiques, si vous voulez, dans un exil. C'est ou bien, dont on voit, bon, évidemment, on peut avoir ni l'un ni l'autre, hein. On peut être complètement assimilé, ne pas être pieux du tout, et ne rien changer ses noms, son nom, la langue et tout. Mais lui, il donne ces deux modèles, en quelque sorte, de situation. Situation où il n'y a pas de piété, mais il y a, disons, un certain Derech Eretz juif, une façon de se conduire en juif. Et puis, à l'autre côté, c'est de ne pas se conduire comme un juif extérieurement, mais respecter les mitzvot. Alors, est-ce que cette deuxième façon de faire, c'est un peu c'est quelque chose qui a été prôné peut-être par dans le temps plus moderne par un bonhomme comme Haddad, qui disait à l'extérieur se conduire comme un goy, mais à l'intérieur comme un juif. Mais bon, lui, il ne s'agit pas d'un modèle non plus. Mais, donc il y a ces deux situations et on peut se demander laquelle est préférable, à supposer qu'on n'ait que le choix entre ces deux-là, qu'est-ce qui est plus important? On voit que celle qui préserve la distinction, celle qui lutte contre l'assimilation, même sans pratique des mitzvot vraiment, elle préserve peut-être plus qu'une forme de pratique des mitzvot, mais qui, on est complètement assimilé, parce que finalement, on va faire les mitzvot de façon assimilée. Faire les mitzvot de façon assimilée, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'exil grec. C'est-à-dire, les Grecs ne nous ont pas détruit, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Mais ils ont dit, on va pratiquer le Beth Amikdash, on va pratiquer les korbanot à la grecque, comme les Grecs. Donc ça va on va peut-être faire un jour de repos, mais un jour de repos éventuellement, bon, supposer qu'on fasse une chose comme celle-là, un jour de repos à la grecque, c'est-à-dire, voilà, repos, ça veut dire pas du tout pas du tout cesser de travailler, systématiquement, comme les travaux qui construisent le monde. Bon, mais on va plus se reposer, il n'y aura pas de travail d'usine, etc. On n'ira pas, bon. Ça, c'est une façon de rendre les mitzvot, en fait, les mitzvot ne sont plus des mitzvot en tant que telles. C'est certains comportements qui ressemblent, c'est des mitzvot, c'est des dérivés des mitzvot. Un peu comme, je sais pas moi, les droits de l'homme qui seraient dérivés d'un Seret HaDibrot. Dérivés, adaptés. Donc, on a cette situation. Voilà, le Rambam, lui, il nous dit quelque chose qu'il faut interpréter de cette manière-là. Il faut pour qu'on s'y retrouve, on est obligé de dire que sortir d'Égypte, ce n'est pas sortir d'un territoire pour entrer dans un autre, mais sortir d'une condition, d'une certaine réalité, et entrer dans une autre réalité. Sortir d'une façon de gouverner, d'être gouverné, si vous voulez, par Hachem, et entrer dans une autre façon d'être gouverné par Hachem. Et alors, la question va se poser, du coup, c'est quoi les Nissim et Niflaot dont parle le Rambam? Qu'est-ce que c'est le sens du mot Ness? On a déjà parlé de ça un peu. Un Ness, c'est aussi un étendard. C'est aussi un endroit qui appelle le regard et qui dit « Regarde ici, il se passe quelque chose. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, comme l'enseigne le Ramban, surtout, dans la fin de Parchat Bo, qui dit cette chose essentielle, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre les Nissim d'un côté et les lois naturelles de l'autre, la nature de l'autre. Tout ça, ça a en commun d'être des décisions d'Hachem. C'est Hachem qui gouverne la nature comme il gouverne les Nissim. Alors, lorsque, on va essayer de le clarifier un peu plus, lorsque Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu ordonner à Paro de libérer les Bnei Israël pour que les Bnei Israël viennent servir Hachem. Alors, comme vous savez, ça n'a pas bien marché. Hein. C'est Paro a répondu, Hachem, je ne connais pas et je ne renverrai pas les Bnei Israël pour qu'ils puissent servir Hachem. Mais quand Hachem lui avait donné cet ordre-là, mon cher Rabbeinu avait dit à Hachem, il a dit, bon, je vais aller chez les Bnei Israël aussi, après Paro, mais je vais aussi parler aux Bnei Israël, et je vais leur dire, je vais dire, voilà, vous allez sortir d'Égypte, etc. Ils vont me demander qui t'envoie. Tu nous parles, mais de qui? Tu parles, mais à quel... D'après qui tu nous parles? Qui t'a dit de nous parler? Quelle est l'autorité derrière toi? Quel est le pouvoir qui est derrière toi? En d'autres termes, il va demander à Hachem, sous quel nom est-ce que tu veux que je te présente? Alors Hachem lui a dit, tu leur diras à eux, tu leur diras Eke Asherek. Je serai ce que je serai. Alors, avant de venir à cela, je vous rappelle que quand Moshe Rabbeinu est revenu de cette intervention et qu'il a fait, comme vous savez, des reproches à Hachem, il a dit à Hachem, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Après mon intervention, la situation s'est aggravée et tu n'as pas sauvé les Bnei Israël. Alors Hachem lui avait dit, vous vous souvenez, c'est au début de Parshat Vayera, Hachem lui a dit, je me suis fait connaître au Bnei Israël, c'est-à-dire au Avot, pardon, Abraham, Israël, Yaakov, je me suis fait connaître sous mon nom, Kel Shakai. Hachem a plusieurs noms, et le nom qu'il utilisait pour les Avot, c'est Kel Shakai. Ushmi Hachem, mais mon nom tétragramme, Yudke Vavke, sous ce nom-là, ils ne m'ont pas connu. Concrètement, ça voudra dire, je leur ai fait des promesses, mais ils n'ont jamais vu le début du commencement de la réalisation des promesses. Et ils n'ont jamais protesté. Et toi, je t'annonce qu'on entre dans la phase de réalisation des promesses, et comme je t'envoie, et parce que ça ne se passe pas comme toi tu crois que ça devrait se passer, tu viens me faire des reproches. J'aime dire à mon cher Arlenou que, bon, c'est désolant. On va devoir faire avec toi, parce qu'eux, ils sont plus là. Et c'est terrible ce qu'il dit à, le reproche qu'il fait là à Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, il dit à Moshe Rabbeinu que, à cet endroit-là, il lui dit qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Mais alors, je reviens donc. Au moment, la sortie d'Égypte, elle correspond, à la manifestation d'un nouveau nom divin, si vous voulez, à savoir le tétragramme. Un nom divin qui n'avait pas encore été utilisé au sens où, donc peut-être qu'il faut rajouter cela, les noms divins, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a des noms? Il a toutes sortes de noms. Ça veut dire que sur Hachem lui-même, on peut absolument rien dire. Mais tout ce que nous en connaissons, nous connaissons seulement Hachem en tant qu'il intervient, il a créé le monde, et il intervient dans le monde. Il intervient dans le monde de toutes sortes de façons. Il y a un projet divin qui nécessite des interventions de différents types. Et chacun des types d'intervention correspond à un nom divin. Par exemple, ce qui est très connu, Elohim, c'est, ça correspond à la Midat Hadin, ça veut dire une certaine rigueur. Hachem gouverne le monde selon la rigueur, par exemple. Donc, ces noms divins, les noms divins correspondent chacun à une certaine anaga, quel chakai, ça correspondait à une certaine façon de gouverner, à savoir donner le nom. Quel chakai, en fait, ça s'écrit, le chakai s'écrit Shin Dalet de Yud. À la fin de chakai, c'est Dalet de Yud qui veut dire Dai. Dai, ça suffit. Ça veut dire que Hachem a donné à chacun suffisamment. Il a donné tout ce dont il avait besoin. Donc. Mais d'un autre côté, c'est aussi le, voilà, je te fais des promesses, mais on n'est pas dans le temps de la réalisation de ces promesses. Par contre, le tétragramme, lui, c'est le nom par excellence, c'est le plus grand nom, le nom dont dérivent d'une certaine manière tous les autres. C'est pas non plus un nom d'Hachem, au sens, on n'est pas en train de dire quoi que ce soit sur Hachem. D'ailleurs, on utilise aussi ce nom pour, ce nom-là pour dire que c'est Rachamim, etc. Aussi un peu. Et, donc, on change de nom. Ce nom-là, il apparaît en même temps que les Israël sortent d'Égypte. Au point que l'on peut se dire que l'Égypte, c'est, si tu voulais, la situation dans laquelle le nom divin qui est marqué ne peut pas se manifester. C'est un empêcheur de dévoilement du nom divin qui est marqué. Et donc, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, la nouvelle façon de gouverner le monde, c'est le tétragramme, c'est Hachem, et je te donne un deuxième nom, le nom que tu vas donner aux Bnei Israël quand tu viens dans leur parler, c'est Kehacherek. Alors, ce nom-là, je serai ce que je serai, une des lectures de ce nom, c'est de dire, je serai avec vous, Bnei Israël, dans les autres exils à venir, comme je suis avec vous dans cet exil. Alors, mon cher Avenu a dit, non, mais ça, je peux pas vendre. Je peux pas vendre une affaire pareille. Je peux pas leur dire, écoutez, on va sortir d'Égypte, mais je vous rassure, on aura d'autres exils. Vous aurez d'autres souffrances, vous aurez d'autres exils, rassurez-vous. Mon cher Avenu a dit, ça, je peux pas leur vendre. Alors, Hachem lui a dit, écoute, tu leur diras seulement les quais. Ne leur dis que le premier mot. Je serai avec vous. Je suis avec vous dans ce galout. C'est-à-dire, je vais aller jusqu'au bout, je vais vous faire sortir de ce galout. Voilà, dis-leur ça. Et puis, après avoir dit cela, il y a un passouk qui dit, c'est Hachem qui parle, il dit, Zé Shemi Leolam, Zé Zichri le Dor Vador. Ceci est mon nom pour l'éternité, l'Eolam, c'est-à-dire le tétragramme, l'Eolam, Zézichri, et c'est comme ça qu'on va se souvenir de moi, donc on va me mentionner dans toutes les générations avec ce nom-là, ces noms. Alors, on comprend bien, l'un c'est tétragramme, l'autre c'est Ekehacherekhe, peut-être les deux peuvent se lire avec les deux définitions. Mais en tout cas, il y a un problème que soulève la Gemara, qui est que le mot le olam, pour l'éternité, dans le texte, il est écrit sans le vav. Normalement, le olam s'écrit lamed, aïn, vav, lamed et emem. Le olam. Si vous enlevez le vav, ça se lit le alam. Et alam, aïn, lamed, mem, c'est on retrouve dans le mot Ne'elam, caché, ça veut dire mon nom est caché.
Et en fait, qu'est-ce qui cache le nom divin? Bien, c'est Olam. C'est la lecture qu'on fait. D'accord? Bien que ce soit écrit Alam, on va dire Olam. C'est le monde qui cache Hachem. Le monde qui a l'air de se dérouler tout seul, il fonctionne tout seul. Ça marche dans la nature. Bon. Ça cache Hachem, ça cache le fait qu'en réalité, bien entendu, c'est Hachem qui est à l'œuvre dans toutes les situations. Toutes les situations, qu'elles soient miraculeuses, qu'elles soient, qu'elles apparaissent comme une situation ordinaire, Hachem est toujours à l'œuvre dans toutes ces situations-là. Alors, à Kadosh Baruch Hu donc, est caché d'une certaine manière. Et puis, il y a des missim, des miracles. Je vous dis, c'est un étendard pour dire, regarde ici. Ça veut dire, comme nous explique le Ramban, par exemple, il dit, voilà, de temps en temps, on a besoin d'une espèce d'une piqûre de rappel. C'est-à-dire, une situation où Hachem apparaît clairement comme étant celui qui dirige le monde. C'est ça l'étendard. Regarde ici, tu vois clairement ici que c'est Hachem qui dirige le monde. Un nes, c'est un dévoilement d'Hachem. Hachem se dévoile. D'accord? Il est d'ordinaire caché par le monde. Mais là, dans cette situation-là, il se dévoile. Pourquoi il se dévoile? Pour nous rappeler que c'est lui qui dirige. Et il faut, ça, c'est aussi pour nous rappeler que même lorsque c'est pas un S, lorsqu'on le voit pas, c'est quand même lui qui dirige. Toujours lui qui dirige. Donc, quand les Bnei Israël avaient, enfin, quand, après le Rambam, nous avons l'obligation, en fait, de mentionner, raconter, les Nissim et Niflaot qui ont eu lieu. C'est ça le récit de... Enfin, c'est comme ça que le Rambam décrit ce qu'on a à faire le soir du Seder. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans certaines circonstances, nous oblige ou nous révèle, il se révèle à nous, il nous révèle que c'est lui qui gouverne le monde. Par exemple, quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, le chemin le plus court pour aller en Eretz Israël, ça aurait été de longer la côte, de passer par Gaza et d'arriver en Eretz Israël. Or, le passage dit, Akadosh Baruch Hu n'a pas guidé les Bnei Israël sur ce chemin-là. On est allé faire un détour pour éviter la guerre contre les Plishtim. Akadosh Baruch Hu a pensé qu'on était trop fragile et qu'on n'était pas capable d'affronter la guerre contre les Philistins, contre les Plishtim, et donc on a évité la guerre en faisant un détour. Ça veut dire, là-bas, c'est, on voit très clairement, c'est que le texte dit, Hachem ne les a pas guidés sur le chemin de R.S. Plishtim. Il a guidé sur un autre chemin. Donc, l'idée, c'est bien que Hachem marche en quelque sorte devant nous, comme c'est le cas, comme ça qu'on décrit la marche des Israël à travers le désert, avec des nuées qui protègent en haut, des nuées devant qui ouvrent le chemin, qui aplanissent le chemin, etc. Donc, Hachem, là, il nous guide complètement. Il nous prend en charge. Il nous a mis dans une situation et il nous guide dans cette situation-là. Donc, en réalité, quand nous parlons de la sortie d'Égypte, nous voulons dire que nous sommes sortis d'une certaine forme de gouvernance du monde, et en particulier de ce qui n'est pas encore le peuple juif, mais en tout cas de celui qui allait devenir le peuple juif, et nous nous sont montrés dans une autre façon. Alors, c'est quoi la façon Mitzrayim? Bon, on était en Égypte. Et si l'Égypte veut dire une certaine civilisation, une certaine façon pour Hachem de gouverner le monde, c'est-à-dire d'avoir, il nous gouverne, mais il nous a mis dans une certaine, une situation qui était évidemment nécessaire, pour que c'était nécessaire pour le peuple d'Israël d'en passer par là, même si on ne comprend pas obligatoirement pourquoi il fallait en passer par là, c'est déjà un autre sujet. Mais, en fait, il faut regarder Mitzrayim. Si les mots maintenant ne veulent pas dire simplement, Mitzrayim ne veut pas simplement dire l'Égypte, n'est-ce pas? De la même manière que Yetzia ne veut pas dire sortie d'un territoire vers un autre territoire, l'Égypte ne veut, le Mitzrayim ne veut pas simplement dire la terre d'Égypte. Mais l'étymologie de Mitzrayim, ou simplement la décomposition en deux parties du mot Mitzrayim, ça nous donne Metsar Yam. Metsar, en hébreu moderne, un Metsar, c'est un détroit. Un détroit, comme son nom le dit, il est étroit. C'est quelque chose, une situation étroite. Alors, géographiquement, l'Égypte, c'est vraiment quelque chose de très étroit. Parce qu'en gros, l'Égypte, c'est la vallée du Nil. Et donc là, c'est extrêmement étroit. Ouais. Mitzrayim, c'est peut-être un mot qu'on pourrait peut-être l'utiliser pour le Chili aussi. Le Chili aussi, c'est extrêmement étroit, et d'un côté, il y a la mer aussi. Bon, mais bon, il se trouve que c'était... Le nom était déjà utilisé... Donc les Chiliens, ils se sont appelés Chili. Ils appelaient ça le Chili, moi je ne sais pas comment ils le disent dans leur langue, parce que Mitzrayim était déjà occupé. Alors, Mitzrayim, c'est donc cette idée Metsar Yam. Et donc, on va regarder ce que ça veut dire Metsar Yam. Yam, la mer, quand elle est décrite, on dit Ze Hayam Gadol ou Rav Yadaim. La mer, elle est grande. Gadol. Hachamim, quand ils parlent de la mer, quand ils en parlent juridiquement, par exemple, quand on parle de la mer, ils n'utilisent pas le mot Yam. Ils caractérisent la mer en disant que c'est Maim She'en Laem Sof. C'est de l'eau qui n'a pas de fin. Une espèce d'infini, de l'eau infinie. La caractéristique, c'est que justement, l'eau est vue comme n'ayant pas de fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fin, bien sûr que la mer elle a une fin. Il y a des rivages, non? Mais la fin, elle n'est pas le fait de la mer. La fin de la mer, c'est quelque chose d'extérieur qui contraint la mer à en rester, à rester là. Contraint, mais pas toujours. Des fois, la mer, elle est plus forte et nous fait un tsunami ou une inondation, etc. Mais a priori, le sable, d'accord, va obliger la mer à se limiter. La mer, quant à elle, elle prendrait toute la place. Bon, là, d'ailleurs, l'idée même au moment de la création, c'est une étendue d'eau. Et Hachem a donné l'ordre à l'eau de se rassembler en certains endroits, et ce faisant, de dégager les surfaces sèches. Yabasha. Yabasha, c'est du coup, quelque part, nous dans les brachot, on va dire que Akadosh Baruch Hu, il fait tenir la terre sur l'eau. D'accord? C'est une des brachot du matin. Roka ha'aretz al hamayim. C'est-à-dire, Aretz al Hamaim, l'eau, la terre sur l'eau. La mer, si on la laissait faire, elle réinonderait le monde. Et donc, on la laisse pas faire, on la contraint. Alors, beaucoup montrent qu'il la contraint avec des choses dont on ne comprend même pas comment elle pourrait la contraindre. Parce que le sable, ça n'a pas l'air d'être terrible comme contrainte pour la mer. Entre la puissance de la mer et multitude de grains de sable, on voit pas très bien comment ces grains de sable peuvent arrêter la mer, arrêter l'expansion de l'eau. Mais donc justement, donc l'eau, les maïm chez en laem, sauf, c'est la mer. Parce que, en quelque sorte, le sauf du maïm n'est pas dû au maïm. C'est pas quelque chose qui vient de l'eau elle-même, l'eau qui se régenterait et qui dirait « j'irai pas plus loin que tel et tel endroit ». La terre elle-même, elle est limitée par elle-même. Elle n'a pas la force d'aller plus loin. Alors, on peut artificiellement, on le fait artificiellement, les polders en Hollande, ou l'aéroport de Nice, si vous voulez, ça a été gagné sur la mer. D'accord, on a pris une colline, si vous voulez, quasiment, on a déposé cette colline dans la mer, et on a construit un aéroport à Nice. Et quand vous atterrissez à Nice, j'ai l'impression que vous allez atterrir dans la mer. Vous n'avez pas l'habitude, ne regardez pas par les hublots, parce que vous allez être effrayé, on ne voit pas du tout qu'on va atterrir sur la terre, on a vraiment l'impression qu'on atterrit dans la mer. Et je vous le dis, alors, vous pouvez regarder par le hublot. Donc, l'eau n'a pas de... c'est l'infini, une notion d'infini. En line sauf. Je me dis... Anisamti gvul layam. J'ai mis une limite à la mer. De telle sorte que la mer n'inonde pas le monde entier. Et comme je vous ai dit, la limite, elle est très très fine, très petite, c'est du sable. On voit très bien que on est un peu sur un tissu extrêmement fragile, sur une toile d'araignée quasiment en suspens, pour pas s'appuyer trop fort parce que sinon on va se retrouver dans l'eau. D'une certaine manière, on voit très bien que Hachem apparaît dans cette situation-là comme imposant à la mer, extérieurement à la mer, en quelque sorte, impose des limites. L'idée d'infini dans le monde, elle est portée par la mer. C'est la mer qui parle, qui nous parle de l'infini. Le Gaon de Vilna, il écrit... La Torah on apprend de la mer cette Torah qui est apprise de la mer, finalement elle est très 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 profonde, elle a une très grande intériorité en quelque sorte. Dans la Gemara, quand on parle de cela, on parle là-bas tous les problèmes de la mer. On dit que ces sujets-là sont appelés Sitrei Torah Mamash, les secrets de la Torah. Des choses, l'intériorité de l'intérieur, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que la mer, c'est cette notion d'infini. Mitzrayim, comme Metsar Yam, c'est-à-dire Yitzraïm, c'est ce qui, par soi, rend les choses étroites. Je prends l'infini, en quelque sorte, ou le tsar, et un yam. En Égypte, on met les choses dans des limites étroites, en fait. Mettre quelque chose qui, en fait, est extrêmement étendu dans des limites très étroites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Égypte a essayé de nous empêcher d'accéder à ce Ein Sof, à cet infini. L'Égypte, elle n'a rien à voir justement avec cet infini. Elle se refuse complètement à reconnaître une dimension infinie. Pour bien montrer que l'Égypte, elle est refermée sur elle-même parce qu'elle n'a besoin de rien. Les Chachamim, il faut remarquer que l'Égypte, elle est nourrie par le Nil. D'une certaine manière, l'Égypte, c'est le Nil, oui. Elle est nourrie par le Nil. Par opposition à Eretz Israël. En Eretz Israël, la terre, elle n'a rien par elle-même. Donc, même pour que la terre puisse jouer son rôle, elle a besoin du soleil, elle a besoin de la pluie, etc. Donc elle a besoin du ciel. Elle est dépendante du ciel. Donc on est obligé de se tourner vers le ciel. Donc les Bnei Israël, ils ont une terre qui les oblige à lever la tête et à se tourner vers le ciel. Comme dit le Navi, il regarde vers le Mibara Ele. Qui a créé tout ça? L'Égypte, il n'a pas besoin de lever la tête. Bon, parce que le Nil nourricier, bon, il nous rapporte toutes les années, on est avant la toute la soirée, bien sûr. Le Nil leur apporte leur nourriture. Il est leur parle à ça. Donc ils n'ont pas besoin de se tourner. Et quand le Bokou dit bien clairement, emmenez Israël, la terre où je vous amène, l'Okeret Mitzrayim, elle n'est pas une terre comme celle d'Égypte dont vous sortez. D'accord. Parce que là-bas, vous allez devoir labourer, semer, récolter, etc. Travailler. Les Égyptiens, ils n'avaient qu'à, d'une certaine manière, ils n'avaient pas tout ce travail à faire. Sortir d'Égypte, c'est donc sortir de cette étroitesse. C'est sortir et accéder à l'infini, en fait. À la grande ouverture. À cet infini que l'Égypte nous empêche de voir. Quand Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, vous savez bien que le buisson ardent c'est le Sinaï. Oui. Donc Hachem, quand il a parlé à Moshe, il lui a dit la preuve que je t'envoie et que ça va marcher, etc. C'est que Ta'avdun et Ta'elokim al-Ha'azé, vous allez servir Elokim sur cette montagne. Alors, les Bnei Israël n'ont pas servi Elohim sur cette montagne. Qu'est-ce que ça veut dire servir Elohim là aussi? Ça veut dire accepter la Torah. Quand on a accepté la Torah, c'est déjà comme si on avait déjà commencé à servir Hachem. Donc vous allez servir Hachem sur cette montagne. Sur cette montagne-là, vous allez recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'Hachem avait dit? À raser, c'est-à-dire Vous allez sortir et vous allez accéder à cette montagne. Il n'y aura pas de commentaire sur la hauteur de la montagne. Bon, c'était pas... Par ailleurs, on sait bien que s'il a été justement la petite, sinon Hachem ne serait pas dévoilé sur le Sinaï, parce que Hachem voulait se dévoiler sur la modestie. Quand il aurait pu sinon se dévoiler effectivement sur l'Himalaya ou sur les Alpes, pour aller moins loin, quoi, mais un peu moins haut aussi. Alors, il n'a pas choisi de se dévoiler là, mais ça s'appelle Haharazé. Mohar, si ça fait référence vraiment à la géographie, c'est presque un abus de langage. Lorsque nous sommes sortis de Mitzrayim, comment on va dire, on est sortis de cette réalité-là, vers une autre réalité. On est sortis d'une certaine petitesse. Une situation dans laquelle la notion d'infini n'existe pas. On n'a aucun lien avec l'infini. C'est-à-dire, on est dans un monde qui marche comme il veut. Comme on dit, Olam Kiminagonore. Ça fonctionne aujourd'hui comme hier. Ici, à Kadosh Baruch Hu, nous mène dans cette situation-là, il nous mène avec des nissim et des niflaot. Puisque dans les 40 années du désert, donc, ils étaient complètement en dehors des lois du monde. D'accord ? Ils étaient nourris par la manne, il y avait l'eau par le puits de Myriam, d'accord, les chemins étaient aplanis par les nuées, il y avait des nuées qui éclairaient, qui protégeaient, qui aplanissaient, etc. Bien, donc ça veut dire, quand on nous donne l'ordre de raconter la sortie d'Égypte. Alors, à un petit enfant, il faut lui raconter cette sortie d'Égypte et rien de plus. Parce qu'on ne peut pas lui raconter plus. La tzet, sortir pour lui, sortir d'un endroit, c'est sortir de sa chambre, sortir de sa maison. C'est ça pour lui sortir. Pour le gadol, le plus grand, la kavana, c'est, on est sorti d'une certaine metziut, certaine réalité, vers une autre réalité. Yatsanu b'Mitzrayim, on est sorti d'Égypte. C'est ça l'histoire. Nous sommes sortis de l'Égypte. Il faut arriver à cet état-là de se dire nous sommes sortis d'Égypte. Hayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzray. L'homme doit se considérer comme s'il était sorti lui maintenant justement sorti d'Égypte. Il y a un point très important ici qu'il faut comprendre. C'est que fête, elle s'appelle Pessah. Mais en réalité, le mot Pessah, il est adéquat pour la première nuit. Il a à voir avec le Corban Pessah. Alors disons, soyons généreux, et disons que ça marche pour le premier jour. Mais après, d'ailleurs, ça ne s'appelle plus du tout Pessah. Ça s'appelle Chag HaMatzot. C'est la fête des Matzot. Et alors, évidemment, on voudrait bien comprendre ce que la sortie d'Égypte a comme pouvoir, en quelque sorte, pour nous obliger à manger des Matzot par rapport à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que la Matzah a à voir avec la notion de sortie d'Égypte? La fête s'appelle Chag HaMatzot. Elle s'appelle aussi Zman Chirutenu, le temps de notre libération. Qu'est-ce que le Chirut a à voir avec les Matzot? Le Zman, c'est Zman Chirutenu, et la fête, c'est Chag HaMatzot. Et on raconte la sortie d'Égypte. Ici, on peut, il faut comprendre les choses de la manière suivante. La matzah, je vais vous dire un secret. La matzah, ça se fait avec de l'eau et de la farine. Alors, il y a autre chose qu'on fait avec de l'eau et de la farine. C'est du chametz. Le chametz, c'est aussi de l'eau et de la farine. Sauf que dans le chametz, il y a un ingrédient supplémentaire. L'ingrédient supplémentaire dans le chametz, c'est le temps. C'est le temps. Alors, comme vous le savez, on fait une pâte et on l'abandonne au temps. C'est-à-dire, la pâte, tant que vous la travaillez, le temps ne compte pas. Parce que le temps d'activité ne compte pas. On va vers le chametz seulement si c'est un temps où on abandonne le travail sur la pâte. On laisse la pâte évoluer à son rythme, si vous voulez. On la laisse un certain temps. Et puis, on voit que maintenant, quand on va cuire les deux, la matzah, quand vous mangez la matzah, ça a le goût de la matzah. Donc, le pain qui est formé avec les mêmes ingrédients, il devrait avoir le même goût que la matzah. Ce qui lui donne un autre goût, c'est ce qu'il a en plus de la matzah. Donc le temps en question, c'est ce temps qui donne le goût du pain. Le goût du pain lui est donné par le temps. Alors évidemment que c'est parce que le temps, c'est parce que le temps m'a fait gonfler la pâte et fermenter ce que vous voulez. Parce que le goût des matzot, qu'on appelle matzot chametz, c'est le même goût que les matzot kasher le Pessah. Les matzot qui sont faits sans qu'on fasse attention au temps. Bon, c'est parce qu'on n'a pas, on leur a pas donné suffisamment de temps pour que c'est le temps de gonfler. On n'a pas fait attention, alors ça s'appelle chametz. La vérité, c'est que si on avait une mitzvah à Pessah, de manger du vadaï chametz, ce serait peut-être très très difficile d'être sûr que c'est du vrai chametz. Je sais pas ce qu'il faut manger. Être ami, elle sait. Qu'est-ce qu'il faudrait manger pour être sûr de manger du chametz? Je parle pas de manger du levain. De quoi est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment du chametz, que c'est pas ta revête ou, bon, on est marqué, c'est du chametz. Mais c'est quoi le chametz? Est-ce que les spaghettis c'est du chametz? Vraiment? Je suis pas en train de dire qu'on peut manger des spaghettis après ça, hein. Est-ce que c'est vraiment du chametz? C'est quoi le vrai Khametz? Qu'est-ce qu'il faudrait manger pour être sûr d'avoir le Khametz? Il faudrait prendre une matzah et la laisser évoluer je ne sais pas combien de temps jusqu'à ce qu'on voit qu'elle sèche et qu'il y a des, comme dit la marraine, des espèces de fissures dans cette pâte-là. Ça, c'est les signes du Khametz. Je sais pas. Autrement, je ne sais pas, franchement dit. Je ne m'y connais pas tellement, mais j'ai pas l'impression, par exemple, que les pâtes que l'on mange, nous, ce soit le vrai Khametz. C'est rien, je ne crois pas. Donc, il y a quelque chose de particulier. C'est que le Khametz, donc, n'est pas le produit de l'eau plus la farine. Si on s'en tient aux ingrédients, ça ne va pas nous produire, ça ne va pas nous donner le Khametz. Il faut ajouter l'ingrédient temps. Ça qui va fabriquer le ta'am.
Raf, je peux poser une question? Est-ce que moi je peux poser une question?
Je
comprends pas bien cette notion de Khametz, parce que une matzah, quand elle sèche et qu'elle se fissure, je vois pas où il est le Khametz quand elle sèche et qu'elle se fissure. C'est pas
c'est
où
ça, le
du c'est temps pas, qu'elle a levé. Mais c'est pas avant la cuisson? C'est pas avant la cuisson ce temps?
Oui, non, mais on est avant la cuisson. C'est pas une matzah. Une fois que la matzah est matzah, elle peut plus devenir Khametz. Ah. Hein. Ça n'existe pas.
Ah d'accord, c'est ça que je comprenais.
C'est une pâte qui est destinée à devenir une matzah. Si maintenant, vous prenez cette pâte-là et vous la mettez de côté.
J'ai compris.
Et vous la laissez évoluer, elle va devenir Khametz. C'est ça, le Khametz. Le Khametz, c'est pas un truc bien... C'est pas... Il y a du levain. Oui, le levain, c'est ce or. C'est aussi interdit que c'est le Khametz, comme du Khametz. Mais le Khametz lui-même, c'est de la pâte à laquelle on a intégré du temps pendant lequel on n'a pas travaillé cette pâte. Et du coup, l'évolution de cette pâte...
En tout cas, le Khametz, c'est du temps.
Bref, si vous avez seulement du temps et que vous n'avez pas de pâte, vous n'avez pas de farine ni d'eau, ça ne fait pas du Khametz. D'accord, c'est clair. D'accord. Non, alors c'est ça, c'est le temps qui va transformer la pâte, qui si vous l'aviez tout de suite travaillé sans cesse, puis ensuite jeté dans le feu et rapidement, ben ce serait une matzah, kasher le pessah, parfaitement kasher. Mais cette même pâte que vous avez travaillé, vous avez passé la roulette, etc., vous avez préparé ce truc pour... si vous le mettez là, ça va devenir le matzah. Non, mais au lieu de le mettre là, je le mets de côté et je l'oublie. Je reviens une semaine après. Ben, je regarde ce qui s'est passé. Et ben, c'est censé... C'est ça du Khametz. Mais à la limite, c'est presque du levain, cette espèce de truc. C'est pas quand elle a fini d'évoluer, c'est presque du levain, non? Je sais pas.
Ouais, ça peut, enfin, je sais pas. Oui, ça peut être considéré comme du levain, presque.
Ouais.
C'est du levain, c'est comme ça qu'on fabrique le levain.
Oui, justement. Donc ça veut dire, le Khametz, c'est un état avant de devenir complètement du levain. D'accord? C'est l'état intermédiaire entre la matzah et le levain. Ça s'appelle du Khametz. C'est de la matzah, parce que, en fait, nous, on se limite, la fameuse 18 minutes, etc., on fait beaucoup plus vite et tout, à toute vitesse de travail, pour empêcher le temps de mettre son grain de sel là-dedans. Et on veut pas que le temps se mêle de l'affaire. Le temps, si vous voulez, on utilise cette notion que le temps, ça fait du Khametz. Par exemple, quand on dit d'une mitzvah, on dit mitzvah abal yadcha, quand il se présente devant toi une mitzvah. Alors, il faut la faire tout de suite. parce que si tu ne la fais pas tout de suite, on dit al tach mitzena, ne la laisse pas devenir chametz, la mitzvah. D'accord, ça veut dire, ce serait, la mitzvah sera encore une mitzvah, mais elle aurait un autre goût. Elle aura le goût d'une mitzvah qu'on n'a pas fait tout de suite. Alors pourquoi on l'a pas fait tout de suite? Est-ce que c'est parce que on était paresseux, parce qu'on était occupé à autre chose, etc. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on fait pas la mitzvah toute seule, tout de suite. Enfin, une certaine mitzvah qu'on devrait faire, on la fait pas par paresse, par parce qu'on prend pas les choses suffisamment au sérieux, etc. Mais là, on nous dit al tach mitzena, ne la laisse pas devenir chametz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aura un autre goût. Peut-être que c'est encore cachère. Il y a des choses qui ne sont pas tellement limitées par le temps, ou bien tu l'as abandonné un certain temps, mais il est encore temps. Bon, ça veut dire, je ne sais pas, il y a un temps pour dire le shema du matin. Ça concerne tous les hommes, en fait. D'accord? Alors, bon, voilà, quelqu'un s'est levé, et il pourrait tout de suite dire le shema. Bon, mais il fait autre chose, il va qu'à d'autres occupations. Alors, bon, il y a un moment où bah, c'est trop tard maintenant. T'as pas dit le chemin dans le laps de temps qui était fixé pour pouvoir dire le chemin. Mais tu peux aller jusqu'à la limite. Et tu, ouais, non, j'ai juste dans les temps, je l'ai fait, c'est bon. Et là, il faut faire la mila le huitième jour. D'accord. Alors, on peut le faire très tôt le matin. On peut le faire juste à la dernière seconde. C'est aussi cachère. La mitzvah, tu l'as fait, la mitzvah bismana, tu as fait la mitzvah le huitième jour. Mais tu l'as fait le huitième jour à 2 minutes de la fin du jour. C'est kasher, aucun doute. Kasher au sens, tu as fait la mitzvah le huitième jour. Mais on voit bien que elle n'a pas le même goût qu'une mitzvah qu'on s'est empressée. On voit très bien qu'il y a cette notion d'empressement. On voit très bien que on dit, bah, il y a toujours Abraham, il s'est levé de bon matin, il a scellé, il a mis la sève, etc., sur les ânes, etc. Même Bilam lui-même aussi se lève aussi tôt le matin. Lui, c'est pour faire ses avérot, mais il y a des gens qui se lèvent tôt pour le matin pour faire les avérot. En fait, si on veut regarder encore un peu plus dans l'étymologie, voilà, ouais, bon, j'essaie de me dépêcher. Une matzah, c'est une notion, ça veut dire dispute. Marqué, qui natsu anashim. Les gens se disputent. On dit, hein, la rive, ou matzah tatsu. Bon. On veut dire comme ça. Dans toute mitzvah que nous faisons, d'une certaine manière, on est en dispute, en lutte avec le monde. Là, il faut qu'il y ait quelque chose dans une mitzvah, il y a une dimension de matzah. Parce que au pluriel, mitzvot et matzot, ça s'écrit de la même manière dans la Torah. Et quand vous avez un passage qui dit Ushmartem est un matzot, on pourrait aussi bien la lire, et le Chazal se lise effectivement aussi comme ça, Ushmartem est un mitzot, vous allez garder les mitzot. Donc ce qu'il faut expliquer justement, et qui est fondamental, c'est cette idée justement qu'il y a dans la matzah, il y a cette idée de, il faut lutter contre le monde, lutter contre le temps, en fait. Lutter, ne pas être pris par le temps. Donc les mitzvot, elles sont aussi des moyens ou de marquer le temps ou de dominer le temps d'une certaine manière, de fabriquer le temps d'une certaine manière, les mitzvot, c'est.